100% week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Voici votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1, ce dimanche 4 juillet. Avec nous en direct, la journaliste politique Laetitia Krupa, l'éditorialiste à Europe 1, Mickaël Darmon, et le spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Salut.
Alors, c'est bien, j'aime bien ce petit ton un peu léger, pour des journées qui s'annoncent beaucoup plus lourdes du côté des partis politiques. Laetitia, pour la prochaine séance présidentielle, on va parler de la droite, de la gauche, de l'extrême droite, et on va y venir, si vous voulez, dès maintenant, ce soir, sur les ambitions de Marine Le Pen, qui ont de nouveau été martelées ce matin au congrès du RN à Perpignan, Mickaël Darmon. La chef reconduite à 98%, il n'y a pas vraiment de suspense, pour un quatrième mandat. En tout cas, elle valide la stratégie, on ne reviendra pas en arrière et on n'écoutera pas le père.
Oui, ça c'est effectivement le message qu'elle a martelé d'emblée, hein, en disant voilà, respect pour notre histoire, mais c'est terminé. Et on ne reviendra pas donc en arrière. Elle s'inscrit dans la logique de ce qu'elle a toujours pensé. Hein. Il faut le savoir depuis des années. Moi, je m'en souviens, je parlais avec elle la veille de sa prise de contrôle de la présidence il y a maintenant des années. Et elle disait, à partir de maintenant, on va passer du témoignage à la prise de pouvoir et à la conquête du pouvoir. Et donc, pour elle, il n'est pas question, malgré les doutes qui peuvent exister, malgré voilà, les risques de ce mouvement stratégique, il n'est pas question pour elle de revenir en arrière. Et donc c'est une réponse aussi à son père, hein, par congrès interposé, et à tout, je dirais, l'ancien fichier clientèle de l'extrême droite.
Oui, tout un bastion qui voudrait changer de ligne éditoriale.
Chercher peut-être un nouvel abonnement.
Ouais, ligne virilité pour le RN, c'est pas pour Marine Le Pen. Mais c'est intéressant de parler ça, parce qu'on est vraiment là-dedans, dans la recherche de clientèle, ou en tout cas d'un électorat, pour respecter ses électeurs, Laetitia Krupa.
Oui, le papa se plaint d'un manque de virilité. Je sais pas s'il a remarqué qu'il avait des filles, mais bon, après, ça c'est entre eux. Mais elle a quand même répondu à cette attaque du père, puisqu'elle a dit que tout dépendait dans le succès du tempérament du chef. Et elle a dit « je crois que je l'ai ». Donc elle se pose clairement en leader capable, parce que c'est ce qu'on reproche à Marine Le Pen, la capacité, la possibilité de prendre enfin ce pouvoir convoité par l'ERN ex-FN. Et donc, évidemment, elle doit convaincre sur sa capacité à accéder aux responsabilités, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuve. Et alors, elle a dit, la bataille qu'on est sûr de ne pas gagner, c'est celle qu'on ne mène pas. Je trouve que c'est un petit peu rapide et un petit peu simple. Hein. Il me semble qu'ils ont mené une bataille quand même pour les régionales et qu'ils se sont complètement...
Ils ont bien loupé la marche.
Mais c'est ça.
Mais
donc, alors, le mea culpa était très léger. Et c'est un petit peu le style RN, c'est-à-dire qu'on efface vite l'ardoise quand elle n'est pas bénéfique et positive pour notre image.
Oui, on efface l'erreur de ligne ou l'erreur de ligne éditoriale, alors que le parti, Philippe Moreau-Chevrolet, a perdu quand même un tiers de ses élus. Pas de région, pas de département remporté. C'était dimanche dernier.
C'est une grosse défaite. Alors, ils avaient plutôt fait un bon score aux européennes. Ils avaient gagné les européennes. C'est un petit peu le même problème qu'avec LREM. Un bon score aux européennes qui n'a pas été traduit dans les faits au plan local et qui manifeste un plafond de verre. Alors, le diagnostic du papa, c'est qu'on n'est plus assez radicaux. On se fait dépasser par Zemmour, on se fait dépasser par d'autres gens et on ne peut pas se permettre ça. Donc virilisons nous à nouveau, ce qui veut dire soyons plus agressifs dans son esprit. Et puis la réponse de Marine Le Pen, assez logique, moi je ne vais pas changer ma stratégie. On ne va pas changer la stratégie à un an du scrutin. Mon but à moi, c'est de prendre le pouvoir. Elle est objectivement capable d'y arriver parce qu'à peu près n'importe qui peut y arriver l'année prochaine. Donc pourquoi pas elle? Elle a bien travaillé, elle est plutôt structurée. Voilà, c'est juste, ne nous affolons pas parce que nous avons un échec et visons, restons droits dans nos bottes et continuons. C'est exactement la même réaction que Macron chez LREM. On ne change rien et on continue.
Et on continue.
Après, est-ce que ça va payer? On ne sait pas.
Oui, en tout cas, on continue, c'est vrai, jusqu'à nommer président par intérim un jeune politique, Jordan Bardella, 25 ans, qui va assurer la présidence du RN à partir de septembre et qui tranche avec les militants historiques du parti, à ceux qui voulaient revenir justement un peu au classique.
Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, elle a au fond paradoxalement continué sur les brisées de son père avec cette nomination. Parce qu'elle aurait pu, et d'ailleurs il était candidat, nommer Louis Alliot. Mais Louis Alliot a une légitimité propre. Il est maire, il a été élu, il est à la tête d'une ville importante et il a donc sa propre autonomie, elle s'en méfie. Et donc elle a préféré nommer un Jordan Bardella qui lui doit tout. qui est un élu régional simplement, qui n'a pas de collectivité, qui n'a pas de territoire à lui. Et ça, on retrouve hein, effectivement, pour le coup, le comportement qu'avait eu son père, toujours méfiant avec les élus issus du scrutin, élus du suffrage universel, parce qu'ils peuvent avoir des velléités d'indépendance à l'intérieur du parti. Et elle le sait. Elle sait très bien qu'avec Robert Ménard et Louis Alliot, il y a une alliance pour la critiquer et jouer une sorte de, voilà, d'aiguillon permanent sur sa stratégie. Oui. Donc, le message aussi était de dire c'est moi qui garde le contrôle.
Oh, et puis il y a la carte jeune hein, quand même, Laetitia Krupa.
Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Michael. Et il se murmure même dans les coulisses qu'elle se réjouit de la défaite de Mariani. Pourquoi ? Parce que si Mariani avait remporté la PACA à l'intérieur des troupes, on aurait encore mis en doute la compétence de Marine Le Pen, sa légitimité à être chef. Donc vous voyez bien que le fonctionnement interne du RN reste quand même assez original. Hein. C'est clanique, ça repose sur la figure du chef, en l'occurrence celle de Marine Le Pen, et que même s'il s'agit de conquérir des villes, même s'il s'agit d'accumuler des victoires, toutes ne sont pas bonnes à prendre.
Oui, et puis il y a le porte-parole de la jeunesse, il faudrait y revenir. C'est ça. Voilà, ils vont chasser clairement tous les candidats d'ailleurs. Cet électorat qui s'est abstenu beaucoup, Marine Le Pen avait commencé dans une vidéo, Philippe Manchevrolet, et Jordan Bardella va l'aider.
Bardella n'a pas fait une campagne par ailleurs très terrible en Ile-de-France, donc le mettre à la tête de l'appareil, c'est aussi une façon peut-être de l'emmener vers des territoires un peu plus d'apparatchik, peut-être un peu plus de structuration du parti, d'incarnation effectivement, mais pas forcément coûteuse en termes de voix. Donc peut-être une façon un peu de le mettre, non pas sur la réserve, mais d'en faire un homme sur qui on peut compter, mais qui ne va pas faire forcément d'étincelles. C'est la question aussi de l'entourage de Marine Le Pen, comme pour Emmanuel Macron. On aimerait bien savoir qui va faire campagne à ses côtés, avec quel type d'incarnation, parce que les équipes sont un peu usées aussi des deux côtés. Hein. C'est deux boxeurs fatigués, Marine Le Pen et Emmanuel Macron à ce stade. Donc,
on parlera pas de la République En Marche ce soir, mais de la droite, de la gauche aussi.
Disons que comme sont les deux candidats, vous avez raison, sont les deux candidats favoris. On pourrait parler de Xavier Bertrand qui vient d'entrer dans le jeu, mais les deux candidats, en gros, dont on parlait, c'est ceux-là.
Qui se sont
tous les deux pris des coups pendant les régionales, très fort, alors qu'on les donnait favoris.
Ouais, juste un mot quand même, parce que c'est vrai que ce face-à-face, en fait, il est intéressant entre eux, parce qu'ils sont à front renversé. Marine Le Pen est assise sur un parti qui est puissant sur le plan électoral. À la différence d'Emmanuel Macron, qui lui compte sur sa personnalité pour pouvoir faire quelque chose, et tandis que Marine Le Pen, elle a un problème avec sa personnalité, mais elle est assise sur un parti puissant et Macron, lui, est assis sur un parti qui n'existe pas. Donc ils sont à front renversé et c'est ça un des enjeux. Et moi, juste pour terminer 30 secondes sur elle, ce qui m'a frappé, c'est aussi sa quête de crédibilité à l'égard de ses électeurs. En leur expliquant, avec parfois des passages assez technocratiques dans son discours, sur sa capacité à parler de budget, d'organisation du territoire, de médecine, de santé, pour montrer qu'elle n'est pas uniquement cantonnée à l'incantation sur le roman national, mais qu'elle est capable de produire de la politique publique, ce qui sera évidemment son enjeu pour la campagne présidentielle.
Oui, car elle était réélue à 98%, mais ça grogne quand même dans les rangs de ses militants. À côté de cela, il y a un homme de la droite qui était prêt en 2017 à la coalition, souvenez-vous, je l'invite à 19h15, il nous en parlera, Nicolas Dupont-Aignan. Il s'est affranchi de cette tutelle Le Pen. Il veut aujourd'hui continuer à créer son chemin avec Debout la France, avec une nouvelle candidature pour 2022. Voilà, est-ce qu'il faut aussi s'intéresser au cas Dupont-Aignan, comme on l'a fait hier avec d'autres candidats, Laetitia Krupa ?
Écoutez, Dupont-Aignan, moi, il me semble que le royaume qu'il ne cesse de vouloir conquérir sont les médias. Bon, je ne sais pas s'il y arrive vraiment. C'est, vous savez, typiquement, quand on est à la salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale, c'est l'un des politiques qui court après nos micros et qui est toujours prompt à répondre à nos questions. Exister médiatiquement, exister médiatiquement lui confère, mais il a raison, hein, une certaine surface de popularité, de notoriété, et donc on l'écoute. Qu'est-ce qu'il a à dire, Nicolas Dupont-Aignan ? Vous lui poserez des questions, justement, sur le fond.
Oui, il a une stratégie, en tout cas, de reconquête. 1 million de portes qui vont être comme ça, franchies par des militants de son mouvement pour essayer de voir pourquoi ces gens-là se sont abstenus. On va continuer d'entrevoir avec vous, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Michael Darmon, l'ensemble du spectre politique qui est sur sa lancé pour 2022. Il y a une candidature unique revendiquée par Yannick Jadot, évidemment, qui a du plomb dans l'aile. La primaire, clairement, à gauche, elle sera incontournable. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, puisque Éric Piolle, ça y est, maire de Grenoble, est candidat lui-même à la primaire des Verts.
Ah, il semble qu'il y ait une primaire incontournable chez les Verts. Ouais, c'est pas une primaire de la gauche, mais c'est une espèce de machine à perdre que les Verts se décident à mettre en place. Jadot aurait pu l'éviter en partant ce que tout le monde lui conseillait de faire, partant en campagne, en étant candidat comme Xavier Bertrand très tôt. Maintenant, c'est trop tard. Il est coincé dans un duel avec Piolle. Piolle sera probablement bien meilleur pour la base des Verts parce qu'il est plus radical, parce qu'il est plus Greta Thunberg, parce que Yannick Jadot est plus dans une stratégie déjà de deuxième tour quasiment, l'alliance de la gauche et de la droite autour des valeurs de l'écologie. On a besoin d'un candidat écolo dans cette élection. Donc peut-être que même si Piolle a un profil radical, il peut rallier la gauche derrière lui, sachant qu'Hidalgo a du mal à démarrer quand même, même si elle y va.
Dites-vous avec un pull vert fluo.
J'ai un pull vert, oui, absolument.
Alors, la question de la primaire, elle agite évidemment tous les partis. On est en pleine bataille, notamment à droite aussi. Mardi, ça va être tranché un petit peu, Michael Darmon. L'organisation même de l'idée d'une primaire, est-ce qu'elle sera restreinte au LR? Est-ce qu'elle sera ouverte?
Ce qui va être tranché mardi, c'est que on sait que c'est mardi le début de la pagaille à droite.
Ouais.
Voilà, ça c'est certain, c'est le début des embrouilles de cette espèce de démon habituel qui prend la droite, c'est-à-dire que les élections imperdables on les perd et que dès qu'il y a une possibilité d'union, eh bien on décide de se diviser. On va retrouver un peu les mêmes mécaniques parce que vous allez encore avoir un sondage là qui va indiquer que Xavier Bertrand pour la présidentielle décroche largement, en tout cas prend largement la tête sur ses concurrents putatifs Wauquiez et Pécresse.
Chez les sympathisants républicains, il est crédité de 84%.
Et encore un va arriver bientôt, Valérie très Pécresse. Certainement. Et donc, mais à chaque fois, on entend la petite musique qui consiste à dire il n'a pas vraiment plié le match, il n'y a pas de candidat naturel qui se détache. Donc en fait, on va voir s'il y a une capacité d'intelligence, je dirais, à droite, et de sortir de cette logique de la droite la plus bête du monde, pour éventuellement, cette fois-ci, inverser par rapport à la primaire habituelle, c'est-à-dire d'abord s'unir et ensuite voter, puisque d'habitude, on vote, et ensuite on se désunit. Donc peut-être que là, ils vont tenter, s'ils veulent, vraiment croire en leur capacité de pouvoir jouer un rôle de game changer, comme on dit en français.
Ils ont l'interview de Jean Leonetti, maire d'Antibes, dans le JDD aujourd'hui, qui a été mandaté par les Républicains pour présenter ses pistes, pour départager les candidats à la présidentielle. Il le dit, désunis, nous aurions peu de chances de l'emporter. Il plaide justement Laetitia Krupa, lui, pour une primaire ouverte, c'est-à-dire qui pourrait accueillir aussi un ex-LR, Xavier Bertrand.
Ils ont tout intérêt, effectivement, à trouver un candidat à droite, LR ou pas, ou LR compatible, parce que Xavier Bertrand est parti par opportunisme politique, par stratégie. C'est-à-dire que dès 2017, il a compris que c'était cette voie-là qu'il fallait tracer. Et donc, il a pris son risque, quand même, à dire Emmanuel Macron, et ça a plutôt bien fonctionné. Mais si vous voulez, cet émiettement concerne aussi la gauche. Donc, on va avoir une ligne de départ, mais alors ça va être, comme dit souvent Gérald Bronner, la panique opportuniste. On va avoir une myriade de candidats au départ de 2022. Et donc, pour conclusion, que tout peut arriver. C'est-à-dire que plus il y a de candidats au départ, plus le scrutin est imprévisible. Et donc, vraiment, après, il risque d'y avoir de grosses surprises.
Après, il y aura quand même des rebondissements cet été. Et il y aura très certainement des accords politiques, des rebondissements, des coups de théâtre et on verra comment la droite se présente à la rentrée. Dans l'état actuel, les choses sont effectivement dans ce cas de figure, mais je pense que ça ne fait que commencer, en fait.
Oui,
en tout cas,
si les sondages se suivent et se ressemblent, c'est une prime à Xavier Bertrand.
Il y a aussi un écosystème politique, il y a aussi des téléphones qui chauffent en permanence, et globalement, à un moment donné, chacun va tenter de dire quelque chose en disant, voilà, soit on repart au casse-pipe, soit peut-être on essaye de changer la donne. Beaucoup ont entendu que dans les propositions, par exemple, de Xavier Bertrand, il me dit « je reste 5 ans et je m'en vais ». Ça ouvre un agenda pour ceux qui pensent à l'après.
À l'après, oui, Philippe Manchevrolet.
Et la droite a l'occasion de reprendre le pouvoir. Historiquement, les seniors se sont mobilisés pour la droite, pour ces régionales. C'était une sorte de sondage en direct, en grandeur nature, sur les seniors français. Donc, il y a la possibilité de le faire. S'ils s'entendent, ils ne sont pas complètement idiots non plus. Ils savent qu'ils sont relativement jeunes, ils sont pas, voilà, ils ont de l'avenir effectivement devant eux. Ils peuvent réussir à faire une présidentielle derrière un candidat.
Et de penser au coup d'après.
Voilà, après, est-ce que le candidat en question, que ce soit Bertrand, Pécresse ou Wauquiez, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, peut l'emporter. Oui, sur le papier, tout est possible. Une élection n'a jamais été aussi ouverte que celle-là, finalement. Mais après, bon, voilà, il faudra que l'alchimie se fasse entre la population et Xavier Bertrand ou Pécresse ou Wauquiez.
Oui,
et
justement, Barouin, ne
ou
l'oubliez
Barouin,
pas.
Ou que sais-je.
Barouin, il me semble que ça reste un fantasme, mais justement,
un fantasme avec une voix
face
rauque.
Au fantasme Barouin, vous voyez,
des sympathisants, lui
on a
crédit.
Xavier Bertrand.
Oui.
Non, mais c'est vraiment un cadre, un contexte très typique de la droite. Vous voyez, il y a ce fantasme Barouin, je ne sais pas pourquoi, je vous laisse trouver les raisons. Et puis, il y a Xavier Bertrand. Xavier Bertrand sait qu'il y a un déficit de séduction. Pour son camp.
On méconnaît l'homme aussi, le candidat de surcroît.
Après, c'est irrationnel parfois la politique. En tout cas, c'est là. Il le sait. Et donc, je trouve qu'il est plutôt malin. Parce qu'effectivement, dire voilà, si j'y arrive et si je prends l'Élysée, je ne reste que 5 ans, il commence à quand même accumuler, il me semble, des petits tickets qu'il donne à tous ceux qui sont sur sa route et qui peut quand même réussir à convaincre. Les réticents.
Voilà, c'est dit. Et puis, on suivra évidemment ce feuilleton avec vous et les grandes voix d'Europe 1, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Michaël Darmon. On se retrouve dans un instant avec ce que vous avez vu, lu et entendu cette semaine qui vous aura marqué. On parlera notamment de la politique sanitaire et de la grande interview de Nicolas Hulot sur BFM Télé que vous avez trouvé formidable. Vous nous direz pourquoi, Laetitia. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
En débat jusqu'à 19h en ce dimanche soir, Laetitia Krupa est avec nous, Michaël Darmon, Philippe Moreau, Chevrolet, ce que vous avez vu, lu et entendu. Sur la politique sanitaire, on a dit beaucoup hier avec le professeur Rémi Salomon sur l'importance de la pédagogie pour amener, Philippe, les récalcitrants à la vaccination, la possibilité aujourd'hui de la seconde injection sur le lieu de vacances, l'obligation vaccinale, il y réfléchit, le gouvernement pour les soignants. Et puis cette tribune dans le JDD aujourd'hui qui n'est pas passée inaperçue pour vous, Philippe.
Non, c'est une magnifique tribune. Nous appelons solennellement les salariés à se faire vacciner. Elle est signée, c'est sa particularité, par Laurent Berger et Geoffroy Roux-de-Bézieux. La CFDT et le MEDEF qui signent une tribune ensemble pour dire « il faut vacciner ». Alors, ils précisent pourquoi ils le demandent. Ils disent « il faut casser le plafond de verre qui pèse sur le pays ». Il n'y a pas assez de ce qu'on appelle le primo-vacciné. Les gens ne se font pas suffisamment vacciner. Rappelons que nous n'avons que 30% de complètement vaccinés avec 2 doses. Ce qui nous place au 16e rang européen, ce qui n'est évidemment pas bon. Et ils disent que ça pèse sur une reprise économique possible. Et il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est qu'ils disent « nous sommes animés d'une même foi humaniste ». Donc la raison pour laquelle ils le font, ce n'est pas que pour l'économie, ce n'est pas que pour l'argent, c'est aussi parce que il faut éviter que cette maladie continue à faire des ravages dans notre pays. Et de voir que les syndicats et le patronat, dans un pays où on dit qu'ils sont incapables de s'entendre, font tous les deux, au milieu de l'été, un truc comme ça, une tribune ensemble pour dire « on arrête, on se fait vacciner, on devient raisonnable et on sauve notre économie et les gens », je trouve que c'est fantastique.
Oui, et ça relaie d'ailleurs le discours aussi de Bruno Le Maire, qui associe vaccination reprise économique, comme l'avait fait régulièrement sur cette antenne l'économiste Nicolas Bouzou. On est dans quelque chose, dans une impulsion collective pour reprendre une vie saine, sereine, économiquement aussi.
Oui, c'est vrai que c'est l'enjeu maintenant. On sait qu'on sort de cette période de confinement dont on pense qu'avec la vaccination, eh bien, on ne retournera pas. Simplement, il y a aussi maintenant le grand enjeu qui est de réussir cette sortie et d'arriver aussi à contrôler le déconfinement des colères et des craintes. Parce que c'est quand ça va un peu mieux que les crises commencent, toujours. Donc, il y a aussi on entend cette crainte du gouvernement qui dit il faut quand même ouvrir quelques contrefeux sociaux. On a vu Gérald Darmanin dans le Figaro dire si la réforme de retraite revient, il faudra quand même compenser pour les gens plus fragiles. Parce qu'il y a la grande crainte, et d'ailleurs Manuel Wargon, ce matin, au grand rendez-vous, le disait sans embâche, c'est assez rare de la part d'un membre du gouvernement, la colère des Gilets jaunes est toujours là, est toujours présente. Les braises sont encore là. Et peut-être qu'avec une maladresse gouvernementale, elle pourrait demander qu'à repartir. Donc le moment est extrêmement sensible parce qu'il est interdit pour Emmanuel Macron, à la veille de la campagne présidentielle, d'avoir une nouvelle crise sociale.
Et je vois venir aussi sur une des fractures sanitaires quand même. C'est comment, avec l'obligation vaccinale, on ne frustre pas une communauté de soignants qui a été exceptionnelle, qui aujourd'hui... Elle en a le choix et la liberté refuse à 50% de se faire vacciner. C'est un exercice extrêmement délicat. Laetitia Krupa, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus. Mais là, le gouvernement prépare ce plan, mais il y va avec une prudence et à tâtons, on peut le dire. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais l'obligation vaccinale, elle n'est pas là.
Là, il y va à reculons, vous voulez dire. Enfin, ça fait depuis mois de février hein, qu'on nous parle de ça. Et bon, on comprend que finalement, ça va passer par la voie législative, que les députés... En tout cas, ceux qui acceptent de parler sont plutôt tous d'accord et qu'on va arriver à cette obligation pour les soignants. Après, il faudra trouver les contreparties et puis les sanctions s'ils ne veulent pas accepter d'être soignés. Donc, il faut évidemment que tout ça soit fait avec beaucoup de cohérence pour éviter alors une fronde des soignants, la fronde des blouses blanches, ce serait encore... plus terrible, il me semble.
Après avoir été applaudi tous les jours pendant le premier confinement.
Ouais, mais c'est pas fini, hein, parce qu'il y a l'enjeu aussi de la rentrée, de l'automne, avec cette campagne vaccinale qui pourrait s'inviter aussi dans les collèges, dans les lycées. Philippe Manchon-Rollet, oui, peut ajouter aussi, mais quand même au débat.
Alors rappelons qu'en Italie, ils ont obligé les soignants à se faire vacciner, que ça n'a pas provoqué d'émeutes. En fait, quand on oblige les gens, on se rend compte qu'en France, on est assez disciplinés, respectueux. On a toujours très peur des Français, mais le fait est de constater que globalement, on est un pays discipliné, qui n'a rien à envier aux Allemands, qu'on cite souvent en exemple. Donc je dis ça parce que l'obligation n'est pas impossible chez nous non plus. Et effectivement, il y a l'enjeu de la rentrée scolaire avec une grosse crainte qui est qu'avec le variant Delta, les écoles servent de moteur puissant à l'épidémie. On est un peu inquiet, les associations, les parents d'élèves, tout ça, moi je suis parmi des parents d'élèves, on est un peu inquiet de voir que le ministère ne prévoit de se pencher sur la question de l'organisation des écoles qu'à la fin juillet, fin août même. Et donc, on aimerait bien que ça se discute un peu avant et puis qu'on équipe les classes en capteurs de CO2, en filtres contre les virus. Maintenant, ça existe, ça coûte 80 euros.
Et un mois et demi pour se préparer.
Voilà, qu'il le fasse de manière proactive sans qu'on lui demande, ce serait encore tellement plus génial. Jean-Michel Blanquer, on lui envoie des messages souvent chez vous, Wendy. Jean-Michel,
oui,
si tu nous écoutes, un bon geste, des capteurs CO2, des filtres HEPA, tu verras, ça
et
coûte pas grand-chose.
Et on relance l'économie quand même.
Et ça aidera beaucoup.
Merci beaucoup. Coup de cœur pour vous ce soir, Laetitia Krupa, pour un revenant, mais il a démissionné de son poste de ministre. En réalité, il n'a pas vraiment quitté aussi la sphère des débats. Nicolas Hulot était invité exceptionnel de BFM Télé cette semaine.
Oui, je trouve que l'interview était de haute tenue. C'est-à-dire que, pour une fois, on n'était pas dans le pour ou contre le crop top, mais dans vraiment le monde de demain. Si vous voulez, ce monde de demain que sans cesse on nous vend et on nous dit pouvoir imaginer. Pour le moment, moi, je n'en vois pas... le début, et c'est vrai que la vision de Nicolas Hulot est passionnante à plein de niveaux. Et donc, je vous laisserai aller sur le replay et regarder de vous-même, parce que j'ai envie de faire un vue sur vous, Wendy, parce que je vous vois tous les week-ends cette année. Voilà, je vous ai vu concentrée, sérieuse, à l'écoute, vive, bienveillante, souriante, toujours pertinente, chaleureuse. Et j'ai envie de vous dire que j'aimerais vous voir encore à l'avenir, et aussi que vous êtes grande, que la route est longue et que notre monde est tout petit.
Ça me touche beaucoup, Laetitia Krupa. Donc, j'ai beaucoup apprécié les analyses et votre livre, La Tentation du Clown. Vous étiez vraiment dans l'air du temps, chers amis, à la fois Laetitia, merci beaucoup, et Philippe Moreau-Chevrolet. Bah, pardon, parce que j'avais fait réagir Michael Darmon sur Nicolas Hulot.
On a passé les grandes voix du week-end, c'était quand même un espace de liberté, un espace où on a pu dire des choses avec effectivement bienveillance et pertinence. Donc ça continuera autrement, mais ça continuera.
Bien sûr, Michael Darmon, vous voulez quand même réagir sur Nicolas Hulot ?
Oui, bien sûr, et là je serai un peu plus sévère.
Mon combat m'a usé, il confie quand même ceci à Pauline de Malherbe. Alors ces mots ont pu toucher les téléspectateurs, mais vous êtes plus sévère en effet ?
Oui, parce que Nicolas Hulot, il représente au fond l'échec de l'écologie de gouvernement. Il est un lanceur d'alerte. Pourquoi a-t-il accepté de rentrer au gouvernement ? Il a fait perdre un temps précieux dans le quinquennat d'Emmanuel Macron à ce sujet. Et il ne faut pas oublier que c'est sa détermination et son obstination qui ont allumé la première étincelle qui a abouti au gilet jaune.
Nicolas Hulot, Philippe Moreau-Chevrolet est un homme qui compte, même s'il n'a pas du tout envie de revenir au gouvernement. Il a tourné la page.
C'est la mauvaise conscience écologique du gouvernement qui est bien vivante, qui marche et qui parle. Donc c'est un peu embêtant pour 2022, parce que s'il continue à faire cette existence un peu en marge mais quand même présente dans la campagne, ça va être très dur à gérer pour Emmanuel Macron, qui a quand même besoin de garder quelques voix à gauche. Donc,
c'est vrai qu'il a pu créer un mouvement en marge.
Oui, c'est un peu ça. Puis il y a le risque qu'il prenne parti pour un candidat. Bon, c'est un peu vrai aussi, quoi. Il pourrait prendre parti pour le candidat écolo, il pourrait vraiment bouger les choses. Il est populaire, il est quand même assez moteur.
Et vous avez été des voix pertinentes et
Merci Wendy de cet accueil. Je tiens à signaler qu'on a eu totale liberté de parole dans cette émission pendant plusieurs mois, comme le disait Laetitia. Donc merci beaucoup à Wendy Bouchard. Et voilà.
Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, je vous souhaite de vous retrouver à la rentrée sur Europe 1. Une grande année politique et présidentielle s'ouvre et vos incarnations, vos expertises et votre lecture de l'actu seront fort à propos. Merci Laetitia Krupa.
Merci beaucoup.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet.
Merci
et à bientôt Mickaël Darmon. Bon vent. Merci à vous tous.